Chapitre 6. Simon, armé d'un carnet d'autographes de célébrités diverses et variées, qu'il avait lui-même contrefait, sonna chez Jessica Fordyce. Il imaginait toujours parvenir à Amadou et Tony, et regretta qu'elle ne l'ait pas accompagné. Un jeune homme vint lui ouvrir. Il était pieds nus et uniquement vêtu d'un jean déchiré qui flottait très bas sur ses hanches. Son visage pointu, surmonté d'une forêt de boucles noires et soyeuses, évoquait celui d'enfant, mais avec quelque chose de lubrique. « J'espérais obtenir un autographe de Miss Fordyce », expliqua Simon. « Passez-moi votre carnet, je vais voir ce que je peux faire », ordonna le jeune homme en tendant la main. « Je ne pourrais pas la voir une minute, je l'admire tellement, non ?»
La porte commençait à se refermer quand une voix féminine s'éleva.
« Qui est-ce ?»
« Un fan qui veut un autographe, je l'ai envoyé balader. »«
Non, Rex, il ne faut pas être grossier avec les fans, fais-le entrer. »
« Elle est là. »
Rex lui indiqua une porte et disparut. Simon se retrouva dans la cuisine.
« J'étais en train de faire du café, » dit Jessica. « Asseyez-vous. Une minute, s'il vous plaît. »
Elle se versa une tasse et prit place en face de Simon, un ordinateur portable ouvert devant elle. Elle portait une chemise en Vichy, un mini short en jean, et des sandales à semelles compensées.
« Ah ah, nous y voilà !» s'exclama-t-elle enfin. « Ou plutôt, voilà le site web de l'agence de détective Agatha Raisin, et voilà une photo d'Agatha avec toute son équipe. Et vous voilà !»«
Ça ne m'empêche pas d'être aussi un fan !» affirma Simon avec un bel aplomb. « Et j'aimerais quand même un autographe !»
Il poussa son carnet vers elle en travers de la table, mais Jessica l'écarta d'un revers de main.
« Cessons cette comédie. Vous êtes en train de mener une enquête, et pour Dieu sait quelle raison, je figure apparemment sur votre liste de suspects. »
conclut-elle avec un sourire éblouissant.
Quand je vous vois en chair et en os, je me rends bien compte que c'est complètement idiot. Vous ne pouvez pas être une meurtrière. Vous êtes trop belle.
Voilà qui mérite bien un café. Du lait et du sucre?
Offrit-elle en se levant.
Oui, s'il vous plaît,
fit Simon en admirant ses longues jambes fines.
Tony était déjà oublié. Il sentait croître d'instant en instant l'attraction de Jessica. Il commença à s'interroger sur l'identité du jeune homme.
Comme par un phénomène de télépathie, celui-ci réapparut dans la cuisine.
« Quoi, il est encore là, celui-là »«
Allons, ne fais pas ton ronchon. Rex, je te présente le détective Simon Black. Simon, Rex Dangerfield joue le rôle d'un de mes amants dans le feuilleton. »«
Il en a de la chance !» répondit Simon avec ferveur.
« Tu ne devrais parler qu'à la police !» protesta Rex.
« Tu t'es pourtant plainte que cette raisin était une enquiquineuse finie. »«
Écoute, chérie, va donc essayer d'apprendre ton rôle pour une fois. »
Rex sortit en claquant la porte.
« Oh, ces jeunes premiers !» soupira Jessica. « Ils se prennent tous pour Laurence Olivier. J'aurais bien voulu me débarrasser de lui, mais il reçoit des tonnes de lettres de fans. Bon, Simon, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?»
George Marston a eu des liaisons avec au moins deux femmes de Carsley, Joyce Hemingway et Harriet Glossop. En avez-vous entendu parler ?«
Il y a une certaine Mrs. Arnold. » Une méchante commère qui jure avoir entendu Joyce Hemingway menacer de mort George une nuit.
Vous avez mis la police au courant ?
Jessica haussa les épaules.
Je n'en ai eu vent que récemment et je n'ai vraiment pas le temps de m'amuser à faire des dépositions. Écoutez, êtes-vous certain qu'Agatha n'a pas trempé dans cette histoire ? Tout le village sait qu'elle était folle de George.
Jamais Agatha n'inventerait un crime aussi odieux. Et d'ailleurs, elle a une peur bleue des serpents.
Dans ce cas... « Essayez donc Joyce Hemingway et bonne chance à vous. Ça, c'est quelqu'un qui a un tempérament venimeux. Et d'ailleurs, elle a travaillé un temps au zoo de Londres. »«
Au pavillon des reptiles ?»«
Non, comme secrétaire, je crois. »«
D'où tire-t-elle son argent ?»«
Je n'en ai aucune idée. Demandez-lui. Et maintenant, il faut que j'aille faire répéter son rôle à Rex. »«
Ça a été merveilleux de vous rencontrer, » balbutia Simon. « Pourrais-je vous revoir ?»«
Je suis très occupée, mais voici ma carte. Téléphonez. » Vous verrez bien.
Simon se retrouva devant le cottage planant dans les nuages. Était-ce le coup de foudre ou bien se comportait-il en adolescent obnubilé par une vedette? Il appela Tony qui lui dit qu'elle était au pub. Mr. Glossop l'avait chassée, Mrs. Glossop avait été gentille, mais ne lui avait rien appris et Joyce Hemingway n'était pas chez elle.
Et toi? Je prendrai bien un verre. Attends-moi là, je te rejoins.
D'ordinaire, le cœur de Simon chavirait à la seule vue de Tony, mince, blonde et ravissante, mais pour la première fois, Jessica occupait toutes ses pensées. Jimmy Jessop s'arracha péniblement au sommeil. Quelqu'un martelait sa porte. Il se mit tant bien que mal sur ses pieds et alla ouvrir.
Joey ? S'exclama-t-il en reconnaissant un autre membre du Rotary Club. Qu'est-ce qui se passe ?
Ta voiture, j'ai failli rentrer dedans. On peut savoir pourquoi tu l'as garée en plein milieu de la route ?
Jimmy, par-dessus l'épaule du visiteur, aperçut sa BMW bien-aimée en travers de la chaussée et l'auto d'Agatha avait disparu.
Je suis désolé, je vais l'enlever tout de suite. J'avais une invitée, c'est elle qui a dû déplacer ma voiture pour sortir la sienne.
Il attrapa ses clés et en pyjama et pantoufles écossaises, se précipita vers son précieux véhicule. Le visage crispé, il constata qu'Agatha n'avait même pas daigné enclencher le frein à main. Une fois la voiture rangée, il se hâta d'aller s'habiller. En ressortant, il remarqua que l'alarme avait été débranchée et maudit tout bas Agatha. Il se rendit directement à l'hôtel des jardins, où il se doutait qu'elle s'était repliée, seulement pour découvrir qu'elle était déjà partie. Il eut une pensée et presque quelques larmes pour sa défunte épouse, qui ne lui avait jamais causé le moindre souci. Pourquoi diable avait-il laissé rentrer cette mégère dans sa vie bien réglée ?
Tony se lassa vite des divagations de Simon, qui s'extasiait sans fin sur Jessica Fordyce, sa merveilleuse beauté, ce qu'elle avait dit.
« Pas étonnant que je me sois attachée à des hommes mûrs par le passé », songea-t-elle. « Les jeunes sont si fichtrement immatures, il suffit d'entendre celui-là radoter. »
« Oui, oui, très bien », l'interrompit-elle enfin. « Le seul renseignement intéressant dans tout ceci, c'est ce qui concerne Joyce Hemingway. Comment allons-nous nous y prendre pour l'aborder ? C'est ennuyeux qu'Agatha tienne tant à la publicité. Jessica te l'a bien dit, nos photos sont sur le site internet de l'agence.
On pourrait la mettre sur écoute.
Et comment cela ?
J'ai acheté un dispositif avec un microphone en céramique spéciale qui permet d'écouter à travers les murs. En fait, ça peut transformer en microphone la surface de n'importe quel mur, si bien qu'on peut capter tout ce qui se dit de l'autre côté. Ça marche même à travers 30 cm de béton.
Ça ne me plaît pas du tout. Ça me paraît très malsain d'écouter les gens chez eux.
Nous sommes en plein dans une affaire malsaine. Si nous n'avançons pas, Agatha pourrait bien finir victime d'une morsure de vipère.
Tony hésitait.
Est-ce que nous avons vraiment fait le tour de la question ? Sommes-nous certains qu'il n'y avait que Fiona, à Lower Sisby, qui pouvait vouloir tuer George ?
Oui, bien sûr, je sais que ce n'était pas elle, mais il y a peut-être une autre femme que nous laissons passer entre les mailles du filet.
Oui, mais puisque nous sommes à Carsley, poursuivons sur Carsley. À mon avis, il vaudrait mieux attendre la nuit.
Écoute, fais le nécessaire, mais je ne veux pas être mêlée à cela. Je file voir Mrs. Bugsby. Elle est au courant de presque tout ce qui se passe dans le village.
Simon la suivit des yeux puis haussa les épaules. Sitôt qu'il ferait noir, il irait positionner son appareil en face du cottage de Joyce. Agatha arrivait à Jericho, le faubourg d'Oxford où résidait l'ex-épouse de George. Elle se gara et sortit de sa voiture dans la chaleur et la poussière. Un panneau à l'entrée du parking signalait « Réservé aux résidents ». Elle espéra que les employés des parcs-maîtres avaient fini leur tournée du jour. Mrs. Trixie Tregent habitait une pimpante maisonnette avec une porte bleue dans une rangée de constructions identiques. Agatha sonna. Elle prit d'abord la svelte beauté qui lui ouvrit pour la jeune fille de la maison, mais son regard aigu décela vite des traces de chirurgie esthétique sur son visage lisse et la silicone qui gonflait sa poitrine opulente, mise en valeur par un corsage de lin vert au décolleté généreux. Une masse de cheveux blonds, très habilement teints, lui cascadait sur les épaules. Agatha se demanda si elle s'était fait poser des extensions.
« Qui êtes-vous ? Est-ce que vous allez rester à me contempler toute la journée ?»
s'impatienta Trixie, la voix dure.
« Excusez-moi, voici ma carte, j'enquête sur le décès de votre ex-mari. »«
Entrez alors, mais j'ai déjà été interrogée par un de vos inspecteurs. »
Agatha devina que Trixie, sans doute très myope, n'avait pu déchiffrer sa carte et avait conclu qu'elle faisait partie de la police. Elle la suivit dans un petit salon. Les fenêtres étaient garnies de stores verts, les murs tapissés de papier peint vert, le canapé et les fauteuils tendus de toile verte et un grand portrait à l'huile de Trixie en robe verte dominait la cheminée.
Comme je leur ai déjà dit, ça faisait une éternité que je n'avais pas vu George. Pauvre George, incapable de ne pas sauter sur tout ce qui bouge. C'est pour ça que nous avons divorcé.
Est-ce que votre mari le connaissait ?
Rory ? Non, on est divorcé. George est venu à notre mariage, mais c'était il y a 15 ans.
Avez-vous eu des enfants de George ?
Non, il en voulait, mais je ne lui dis pas question, ça bousillerait ma ligne.
Je me demande s'il a eu des enfants illégitimes.
Ce serait bien étonnant.
Mais toutes ces aventures. Il préférait les vieilles peaux. Il avait un de ces complexes, un truc grec, je ne sais plus quoi.
Bon, c'est quasiment l'heure de l'apéro. Un petit verre ?
Avec plaisir. Je conduis, mais Justin, ce n'est pas de refus.
Qu'est-ce que je vous offre ? Gin tonic, s'il vous plaît. Puis-je fumer ?
Sûr, faites comme chez vous.
Agatha fureta dans toute la pièce et finit par dénicher un petit cendrier en verre sur la cheminée. Trixie revint avec un plateau. Ses yeux, qui étaient brun terne auparavant, étaient maintenant d'un vert éblouissant. Lentille de contact, diagnostiqua Agatha.
C'est quand même drôle, dit Trixie. Je viens juste de me le rappeler. S'il y avait une chose au monde dont George avait peur, c'était les serpents. Une fois où il était en poste je ne sais plus où, il a été piqué par un serpent et emmené d'urgence à l'hôpital. Il m'a écrit qu'il voyait sans cesse ces sales bêtes dans ses cauchemars. Quelle horreur, si l'assassin était au courant.
Agatha avala une grande gorgée de son gin. Le meurtre de George prenait un tour de plus en plus terrifiant. Le sadisme de ce crime était pratiquement inimaginable. Son long trajet l'avait fatigué et cette pièce exiguë était étouffante.
« Je peux avoir un de vos machins à cancer ?» quémanda Trixie.
« Servez-vous ?» acquiesça Agatha en lui présentant le paquet.
« En fait, je ne devrais pas. Vous avez remarqué, comme toutes les fumeuses ont de vilaines ridules juste au-dessus de la lèvre supérieure ?»«
Non ?» mentit Agatha, se jurant intérieurement une fois de plus de se désintoxiquer.
« Donc vous n'aviez eu aucune nouvelle de George depuis longtemps ?»«
C'est ça.
Sauf un message bizarre.
Je l'avais oublié. Je ne l'ai pas rappelé parce que je lui ai gardé une dent de la façon dont il m'a roulé, je suppose. »
Que disait-il ?
Il avait un peu trop bu, apparemment. Il a raconté qu'il avait besoin d'un avocat et réclamé le nom de celui que j'avais pour notre divorce. Je me suis dit que cet abruti n'avait rien inventé de plus malin que de se remarier et s'était fourré dans une histoire tordue comme d'habitude.
Et s'il s'était en effet remarié ? Songea Agatha avec une soudaine excitation. À vérifier.
Mrs. Blugsby annonça à Tony que Mr. Fremantle venait de rentrer chez lui.
Tony aurait préféré s'entretenir seul à seul avec Sarah plutôt qu'en présence de son mari, mais décida de tenter la voir malgré tout.
« Que puis-je pour vous ?»
s'enquit Sarah en lui ouvrant.
« Je fais partie de l'agence de détective Agatha Raisin et je n'ai rien à vous dire. »
Sarah voulut refermer. Une haute silhouette se profila derrière elle.
« Qui est-ce ? »
« Juste une démarcheuse !»
esquiva Sarah en claquant la porte. Tony regagna sa voiture. C'était le week-end. Phil serait donc chez lui. Peut-être tiendrait-il une piste. Elle ouvrait sa portière quand l'homme qu'elle avait aperçu dans l'entrée sortit en trombe de la maison en la hélant et s'approcha.
« Qu'est-ce que vous vendez ?»«
Rien du tout. Je suis détective et j'enquête sur le meurtre de George Marston. »
C'était un homme entre deux âges, solidement charpenté, avec un visage rond et très bronzé, des sourcils broussailleux, une petite bouche pincée et un regard hargneux.
« Et qu'est-ce que ma femme a à voir là-dedans ? »
« J'interroge toutes les personnes qui ont employé Marston. »
« Alors pourquoi Sarah a-t-elle dit que vous vendiez quelque chose ?»
« Est-ce que vous essayez de vous introduire chez les gens, sous des prétextes mensongers ?» Il se tenait à deux doigts d'elle dans une attitude menaçante. Tony s'écarta.
« Demandez-le lui, je lui ai dit qui j'étais. »«
Fichez le camp, et ne remettez plus jamais les pieds ici !»
Il lui saisit le bras d'une poigne de fer. Tony le fixa calmement.
« Lâchez-moi ou j'appelle la police !»
Il la libéra à contre-cœur. Tony grimpa dans sa voiture et claqua la portière. Phil Marshall fut atterré par le récit qu'elle lui fit de l'entrevue.
Agatha est complètement folle d'envoyer une jeunette comme vous enquêter sur ce meurtre. Il y a quelqu'un de dangereux derrière tout ça. Je vais lui proposer de m'en occuper. Vous n'avez pas l'âge de mourir. C'est différent pour un vieux schnock comme moi.
Aucune rumeur sur Fremantle ?
Pas à ma connaissance. Pour le moment, du moins, mais je vais me renseigner.
Un verre de limonade ?
Simon estimait que Tony aurait franchement pu le contacter. Il rôdait dans les environs en attendant la tombée de la nuit et s'ennuyait ferme. Enfin, il prit la direction du cottage de Jessica. Il était venu à mobilette et comme la route était en pente, il coupa le moteur, éteignit son phare, se laissa descendre en roue libre à deux pas de chez elle et s'arrêta dans l'ombre propice d'un sycomore. Il déballa son équipement, mit les écouteurs et se glissa jusqu'à la maison à l'abri de la haie. Il savait qu'il était censé épier Joyce Hemingway, mais il brûlait d'entendre ce que disait Jessica. Juste en face de chez elle s'étendait un champ bordé d'arbres sous lesquels il alla se dissimuler avant d'orienter son microphone vers le bâtiment. Silence absolu. Il s'aperçut alors que la voiture de Jessica n'était plus là. Soit elle avait regagné Londres, soit elle passait la soirée à l'extérieur. Il s'obstina et résolut de l'attendre. Au-dessus de sa tête, les feuilles frissonnaient sous la brise tiède. Il s'installa confortablement, adossé contre un tronc. Il avait passablement bu au pub pour tuer le temps et ses paupières clignotaient. Un instant plus tard, il dormait profondément. Il s'éveilla brusquement en sentant quelque chose bouger dans son dos, à même la peau, Il se leva d'un bond. Quelque chose avait dû tomber des branchages. Il arracha sa chemise et au même instant ressentit une piqûre douloureuse. À la lumière de la lune qui filtrait à travers la ramure, il découvrit avec effroi un petit serpent qui se tortillait à terre. Il cacha rapidement son matériel derrière un arbre et se précipita à l'hôpital de Morton-in-Marsh. Devant l'entrée des urgences, il appela Tony. « J'ai été mordu par un serpent !»«
Quoi ? Où ça ?»«
Peu importe, va vite jusqu'au cottage de Jessica. J'ai caché le matériel derrière un arbre, juste en face. Emporte-le, il ne faut pas que la police le trouve !» Il raccrocha. Tony, qui était rentré à Merchester depuis plusieurs heures, reprit immédiatement la direction de Carsley, tandis qu'une ambulance, toute sirène hurlante, conduisait Simon à l'hôpital général de Cheltenham. À son vif soulagement, le cottage de Jessica était plongé dans les ténèbres. Elle trouva sans difficulté l'appareil et s'apprêtait à le ranger dans un sac quand elle se souvint que Sarah Fremantle habitait tout près. En dépit de ses scrupules, Tony ne put résister à la tentation. Se faufilant d'arbre en arbre, elle alla se poster en face de chez Sarah, pointa le système d'écoute et enfila le casque. Horrifiée, elle entendit Sarah sangloter puis son mari vociférer.
« Tu vas me dire la vérité, même si ça doit prendre toute la nuit !»«
Je n'ai pas eu de liaison avec lui !»
occuta Sarah.
« Lâche-moi, Guy !»«
Je vais faire chauffer à blanc la plaque électrique et te maintenir la main dessus jusqu'à ce que tu aies avoué !»«
Non !»
Tony sortit son portable et composa le 999.
« J'ai entendu des coups de feu au 10 Blackberry Lane, chez Sarah Fremantle, à Carsley »
cria-t-elle en déguisant sa voix du mieux qu'elle put. Puis, à la lueur de la petite torche de son téléphone, elle feuilleta rapidement son calepin à la recherche du numéro de Sarah. Ce fut Mr. Fremantle qui décrocha.
« La police arrive, espèce de salaud »
lança-t-elle. Elle coupa la communication, se rua à sa voiture avec le matériel de Simon, démarra en trombe et fonça tout droit au presbytère où elle jeta le sac qui contenait le dispositif dans les bras d'une Mrs. Blugsby pétrifiée en lui enjoignant «
Cachez-moi ça s'il vous plaît, je vous expliquerai plus tard !»
Ceci fait, elle retourna devant chez Sarah pour attendre la police. On pouvait avoir reconnu ses intonations au téléphone. Mieux valait affronter tout de suite les agents et affirmer qu'elle avait cru surprendre des cris et des coups de feu dans la maison. Le hurlement des sirènes emplit bientôt l'air. Bill Wong arriva le premier sur le terrain. « Une équipe d'intervention spéciale est en route. C'est toi qui as téléphoné ?»«
Oui.
Je venais interroger Mrs. Fremantle et j'ai entendu crier quelque chose comme « Ne me brûle pas !» puis comme une détonation. » D'autres policiers débarquèrent. La porte du cottage s'ouvrit et Guy Fremantle apparut.
Au sol !
Hurla Bill.
Tout le monde au sol !
Un hélicoptère se posa dans le champ d'en face. L'équipe d'intervention en jaillit. Guy, l'air soudain terrifié, s'effondra à terre. Bill s'avança et lui passa les menottes. Des policiers armés firent irruption dans la maison, Bill et Alice Peterson sur les talons. Sarah, assise sur le carrelage de la cuisine, sanglotait. Elle avait une lèvre fendue et un œil au beurre noir. La plaque chauffante était incandescente.
Il allait me brûler la paume ! Murmura Sarah. « Et j'ai l'impression qu'il m'a fracturé les côtes. »
Alice appela une ambulance. Une heure plus tard, Tony était au commissariat de police face à Wilkes. Elle avait eu le temps de peaufiner sa version des faits et s'y tint sans dévier d'un fil. Elle avait rendu visite à Phil Marshall avant d'aller voir si elle pouvait s'entretenir avec Sarah Fremantle. Elle s'inquiétait pour cette dernière car elle avait jugé Guy Fremantle violent lors d'un premier passage un peu plus tôt. Elle avait perçu des cris et jura qu'elle avait cru entendre également des coups de feu. On lui fit répéter à plusieurs reprises sa déposition sans parvenir à relever la moindre divergence dans son récit.
L'hôpital général de Cheltenham nous a prévenu tout à l'heure qu'on venait de leur amener Simon Black, qui avait été piqué par un serpent,
embraya Wilkes. Étiez-vous au courant ?
Oui, il m'a téléphoné, mais comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de passer chez Sarah avant d'aller à l'hôpital.
Wilkes tourna quelques feuillets.
Selon lui, il attendait sous un arbre en face du cottage de Jessica Fordyce pour lui poser quelques questions supplémentaires si elle rentrait ce soir-là. Il a dit s'être endormi et réveillé en sentant quelque chose dans son dos. Or, les vipères ne se promènent pas la nuit et elles ne tombent pas des arbres. Nous pensons que celle-ci a été glissée volontairement dans sa chemise.
Et Jessica Fordyce, où était-elle ?
Elle dînait à Morton, au restaurant La Cuisine Rustique, comme plusieurs de ses admirateurs peuvent en témoigner.
Mais il ferme sûrement à 9h30, n'est-ce pas ? La nuit devait déjà être tombée quand Simon a été piqué.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Il faisait noir quand il m'a appelé, répliqua vivement Tony.
On va saisir votre déposition et vous aurez à la signer. Nous aurons sans doute besoin de vous revoir demain.
Agatha Raisin fut arrachée au sommeil par la sonnerie stridente du téléphone posé à côté de son lit. Elle écouta terrifiée Tony lui raconter l'attaque subie par Simon. Tony conclut en annonçant qu'elle partait pour l'hôpital de Cheltenham.
« Je vous retrouve là-bas », répondit Agatha. Elle s'habilla rapidement. Les bruissements de la toiture au-dessus de sa tête lui paraissaient soudain sinistres et angoissants. Le chaume crépitait toujours doucement la nuit, mais elle finit par se persuader que des serpents s'y étaient nichés.
Tony la guettait à l'entrée de l'hôpital.
« J'aurais dû vous dissuader de venir. Il dort et il va bien. Mais je voulais vous parler de Guy Fremantle », expliqua-t-elle.
Elle raconta l'arrestation de Guy, mais s'abstint soigneusement de mentionner l'appareil de Simon.
Donc, il avait roué sa femme de coups et se préparait à la brûler gravement, résuma Agatha.
Voilà un individu assez sadique pour avoir commis ces meurtres.
Je me demande s'il s'y connaît en reptiles.
Et est-ce qu'il était vraiment ailleurs tout ce temps? Où était-il censé se trouver?
Selon Phil, il occupe un poste d'inspecteur en chef des soudures sur une plateforme pétrolière en Écosse.
C'est curieux. Sa femme m'avait laissé entendre qu'il travaillait à l'étranger. Pouvait-il se tenir en embuscade dans les environs?
Je suppose que la police va contrôler tous ses mouvements.
À votre avis, Sarah va-t-elle divorcer?
Pas forcément. Elle n'a aucun revenu. Bien sûr, on lui allouera une pension. Peut-être qu'elle a été brutalisée trop longtemps pour assumer une telle rupture.
Je ne me sens pas le courage de refaire tout le chemin jusqu'à Mercer, dit Tony. Je crois que je vais dormir dans ma voiture, afin de voir Simon demain matin dès les premières visites.
Est-ce qu'il a interrogé quelqu'un d'autre?
Il a rencontré Jessica Fordyce, qui lui a complètement tourné la tête, visiblement. Mais il était reparti espionner à l'extérieur de son cottage.
Agatha lui décocha un regard pénétrant.
Ces vieilles maisons ont des murs très épais. Où était donc Simon quand le serpent s'est faufilé dans sa chemise?
Assis sous un arbre en face, il s'était assoupi.
N'importe quel automobiliste pouvait donc le voir dans ses phares. Il va falloir déterminer si le mari de Sarah est rentré chez lui tandis que Simon dormait et s'il connaît quelque chose aux vipères.
Agatha vrilla ses petits yeux d'ours sur le visage de Tony.
Mais dites-moi un peu, est-ce que, d'aventure, Simon utilisait un système d'écoute?
Non,
bégaya Tony cramoisi.
Donc il en utilisait bel et bien un. Vous ne savez pas mentir. Et si la police le découvre parmi ses affaires?
Je l'ai confié à Mrs. Blugsby,
confessa Tony tête basse.
Agatha poussa un gémissement. Ce genre de matériel est illégal en Grande-Bretagne. Il faudra passer au presbytère le plus tôt possible demain matin. Si Alf Blugsby met la main dessus, ce pieux abruti qui ne peut pas me souffrir ira probablement le remettre au premier policier venu.
C'est comme ça que vous vous êtes rendu compte que Guy maltraitait sa femme?
Je n'ai pas pu résister à la tentation. Je ne savais pas que c'était illégal. J'ai protesté quand Simon m'en a parlé parce que je trouvais que ce n'était pas très honnête.
Venez donc passer la nuit chez moi. Nous irons récupérer ce fichu truc demain matin avant de rendre visite à Simon.
Le lendemain matin, le pasteur arpentait la salle de séjour à la recherche de son stylo préféré pendant que son épouse préparait le petit déjeuner dans la cuisine. Il pensa qu'il l'avait peut-être laissé tomber par terre et se mit à quatre pattes pour regarder sous le canapé. Il aperçut un petit sac qu'il ne connaissait pas et le tira à lui. Il allait l'ouvrir quand sa femme entra.
« N'y touche pas, s'il te plaît !» intervint-elle promptement. « C'est quelque chose que l'on m'a laissé en dépôt. Ton petit déjeuner t'attend. Que fais-tu par terre ?»«
J'ai perdu mon stylo plaqué or, celui que j'avais gagné au concours de mots croisés. »«
Il est posé sur la cheminée, derrière ce vase. »«
Ah, formidable !»
se réjouit le pasteur en se relevant.
« Et maintenant, va manger. »
Sitôt que le pasteur, ayant récupéré son stylo, fut passé dans la cuisine, Mrs. Blugsby se saisit du sac et chercha fébrilement une cachette sûre autour d'elle. Elle franchit la porte-fenêtre, traversa le jardin et pénétra dans le cimetière. Elle avait examiné le contenu du sac et identifié l'appareil, car elle avait lu récemment un article sur les dispositifs espions. On avait inhumé Mr. Barrett Gines la veille. Une pelle avait été abandonnée auprès de la fosse encore toute fraîche. Elle s'en empara, creusa un trou, y déposa le sac et le recouvrit de terre qu'elle aplanit vigoureusement. Après son petit déjeuner, le pasteur décida d'aller au cimetière dire une prière pour l'âme de feu son paroissien. Il faisait beau et la chaleur moite des jours précédents était tombée. Debout, près de la tombe, il inclina la tête quand il entendit soudain monter des profondeurs une voix grave qui proclamait.
Alf Blugsby, vous êtes arrogant!
Avec un cri étranglé, il tourna les talons et courut à toutes jambes se réfugier au presbytère.
Voilà ce que j'aimerais lui dire,
conclut le vieux Mr. Caesar qui passait par là avec son ami Ben Camden.
Moi tout pareil,
approuva ce dernier.
Alf, que t'arrive-t-il ?
S'émut Mrs. Blugsby.
Tu es blanc comme un linge.
Je crois que je perds la raison. Je suis allée prier sur la tombe de Mr. Barrett Jines, et voici qu'il en est sorti une voix qui m'a interpellée.
Oh mon Dieu, pensa sa femme, ce satané appareil a dû se mettre en route. Et que t'a-t-elle dit ?
Peu importe, répliqua vivement le pasteur. Tu crois qu'il est vivant ?
Le pauvre Mr. Barrett Jines était mort depuis une semaine quand on s'en est aperçu,
répondit Mrs. Blugsby, s'efforçant de garder son sang-froid.
C'est Mrs. Carpy, sa femme de ménage, qui l'a découvert à son retour de vacances. Elle nous a fait une description atrocement réaliste de l'odeur et des mouches. Il est absolument impossible que ce malheureux ait survécu. C'était sans doute un mauvais plaisant caché derrière une pierre tombale.
Le visage du pasteur s'éclaira et il regarda affectueusement sa femme. Comment une manifestation surnaturelle l'aurait-elle qualifié d'arrogant ?
« Je vais aller voir, » déclara-t-il.
« Non, va rédiger ton sermon, je m'en charge. »
Mrs. Blugsby se précipita au cimetière. Son coup de pelle énergique avait dû enclencher le mécanisme. Elle s'empressa d'exhumer le sac, l'ouvrit et coupa le contact. Elle se demandait où le dissimuler quand elle entendit son mari l'appeler.
Elle n'eut que le temps de le jeter derrière une stèle au moment où Alf surgissait au bout du jardin.
« Il y a cet insupportable raisin qui est là !» lui cria-t-il. « Tu as vu quelqu'un ?»«
Non, personne !»
Mrs. Blugsby se hâta de rentrer. Agatha et Tony patientaient dans la salle de séjour, tandis que le pasteur s'était retranché dans son bureau.
« Au cimetière !» leur glissa-t-elle. « Venez vite et débarrassez-vous de ce maudit engin !»« Quand même, vous ne savez pas que c'est illégal ?»«
Je vous expliquerai tout après !» répondit Agatha.
Elles récupérèrent l'appareil et s'installèrent au jardin. Mrs. Blugsby le camoufla dans un nouveau sac, au cas où son mari passerait par là, et reconnaîtrait le premier. Agatha lui fit part des derniers événements.
« Donc vous comprenez, Fremantle pourrait avoir distingué Simon à la lumière de ses phares en rentrant chez lui, »
conclut-elle.
« Mais comment l'aurait-il reconnu ?»«
Pas difficile, » intervint Tony. « Nos photos figurent toutes sur le site internet d'Agatha. Ça complique sérieusement certaines enquêtes. »
Agatha rougit. Tout à sa soif de publicité, elle ne s'était jamais avisée que ce pouvait être une sottise. Sa confiance en elle-même, toujours assez fragile, plongea de rechef.
« Allons donc voir comment va Simon, » dit-elle. « En passant, nous déposerons cet instrument dans le coffre-fort de l'agence. »
Simon semblait d'excellente humeur, ce qui irrita quelque peu Agatha. On lui avait administré une injection de sérum antivenimeux et il pensait sortir dès le lendemain. Son sourire s'effaça, tandis qu'Agatha le réprimandait vertement pour l'incroyable légèreté avec laquelle il avait recouru à un dispositif d'écoute illégal.
Peut-être faudrait-il rechercher des gens capables de manipuler les serpents, s'interposa Tony. Ce n'est pas à la portée du premier venu. Et les animaleries, est-ce que n'importe qui peut acheter des serpents venimeux?
Agatha extirpa son iPad de son vaste sac et tapota rapidement.
Voyons ça. Ah, nous y voilà. Il faut détenir une licence spécifique. Mais ce n'est pas le cas en Irlande. Un de nos suspects aurait-il séjourné récemment en Irlande ?
Comment le savoir ?
Si seulement nous disposions des mêmes ressources que la police, on va devoir leur demander.
Peut-être devrions-nous élargir le champ, suggéra Tony.
Nous nous concentrons sur Glossop, Fremantle, Hemingway et Fordyce. Mais il pourrait très bien s'agir d'un tiers que nous ne connaissons pas.
George Marston était un dragueur compulsif.
Agatha grimaça légèrement à ces mots.
Quelqu'un d'autre pouvait avoir une raison de le tuer.
Et je ne comprends pas pourquoi nous maintenons Jessica Fordyce sur la liste. Elle a des alibis à toute épreuve et c'est une célébrité. Comment pourrait-elle entrer dans une animalerie et s'offrir quelques vipères incognito ? Et d'ailleurs, ça m'étonnerait bien que l'on trouve des vipères en vente. Ce sont des variétés exotiques, genre boa constrictor que les clients veulent.
D'accord avec Tony, déclara Simon. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder Jessica. Elle est si belle, si chaleureuse, si...
Oh, ça va ! Coupa Agatha.
« Écoutez, pour le moment, nous avons un affreux bonhomme sous la main, et c'est Fremantle. Pour traiter sa femme comme ça, il faut être manifestement violent et jaloux. »«
J'y réfléchis, » reprit Tony. « Ça ressemble plus à un crime féminin. Marston a bu un verre avec quelqu'un, et c'est comme ça qu'on l'a drogué au départ. Mais j'ai peine à l'imaginer prenant gentiment l'apéritif avec Fremantle. Et je viens de me rappeler que Phil pourrait bien tenir un autre suspect. Je suis passée le voir hier. Il m'a signalé que nous avions oublié le mouton noir de Carsley. Mathilda Fraser, vous savez, celle qui a été arrêtée il y a 3 ans à cause de ses plantations de cannabis. On a rejeté la faute pour l'essentiel sur son mari, Tim, et elle a obtenu un sursis à cause de ses 3 jeunes enfants. Mais il paraît que Tim, qui avait filé et n'a jamais pu être retrouvé, lui obéissait au doigt et à l'œil. C'est elle qui portait la culotte chez eux.
Et George dans tout ça ? Elle l'a évidemment employé pour refaire son jardin qui était sans dessus-dessous une fois les plants de cannabis arrachés. Elle a démoli la serre et voulu faire planter des massifs. Allons la voir tout de suite.
Et moi, qu'est-ce que je ferai quand je serai sortie ? Demanda Simon d'une voix plaintive.
Il y a un tas de dossiers en retard. Attelez-vous à quelques-uns d'entre eux. Notre taux de réussite est en train de chuter.